Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode saison 2 d'ActuVu. Si vous nous écoutez depuis le début, vous devez connaître notre intro par cœur, mais au bout de 27 épisodes, je vous avoue qu'on a du mal à s'en défaire. Attention, c'est parti! Nous sommes une bande de copains journalistes. Tous les samedis matins, on s'installe dans vos oreilles pour vous récapituler l'actualité de la semaine. Nous sommes motivés à vous aider et en plus, nous sommes très intelligents. En résumé, nous sommes vos meilleurs alliés. C'est moi, Capucine, qui vous accompagnerai durant ces 18 prochaines minutes. Cette semaine, Majid nous parle de la Hongrie, condamnée par la justice européenne, et de Viktor Orban qui s'en prend à la communauté LGBT. En France, Clément va vous expliquer le casse-tête des primaires de la gauche et de la droite pour désigner un candidat pour 2022. Notre économiste Julien abordera l'impact économique du Brexit en France. Héloïse s'est démenée pour trouver un sujet pour la rubrique sport et culture et a finalement décidé de nous parler de la suspension des Russes aux Jeux Olympiques avec un petit récap pour expliquer le rôle de l'Agence mondiale antidopage. Et on finit en beauté avec Joséphine qui vous présentera les différents prix décernés aux journalistes tous les ans. Mais bien sûr, on s'échauffe d'abord avec notre inimitable affluoté. C'est à toi Juliette.
C'est le nombre de Ouïghours esclaves dans les champs de coton en Chine. C'est le chercheur allemand et lanceur d'alerte Adrian Zenz qui a dénoncé cette affaire. Je vous invite à lire l'enquête dans Libération. Michel Rubirola. Il s'agit de la maire de Marseille qui a annoncé mardi vouloir quitter son poste. Élue en juillet, c'était la première femme à la tête de la deuxième ville de France. Lundi, se tiendra un vote où, sans surprise, devrait être élu Benoît Payan, son adjoint socialiste, pour la remplacer. 44, c'est le nombre de départs du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale depuis le début de la législature. Fiona Lazard, députée du Val-d'Oise, a quitté LREM pour rejoindre le récent parti Les Nouveaux Démocrates, coprésidé par Aurélien Taché et Émilie Cariou. Christelle Ratigné-Carbonneil. C'est un nom à retenir car il s'agit de la nouvelle présidente de l'Agence du médicament. Elle était jusque-là numéro 2. Elle succède à Dominique Martin à l'un des postes les plus exposés du système de santé français, surtout en ce moment. 90 000 euros, c'est le montant de l'amende que devra verser la ville de Paris pour avoir nommé trop de femmes. Oui, vous l'avez bien entendu, la ville de Paris dispose de trop de femmes directrices dans ses services pour pas assez d'hommes. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, a jugé cette décision absurde, mais heureuse d'aller payer cette sanction.
Merci Juliette. Sans transition, on passe à la rubrique internationale.
Keep America great!
How dare you!
Can't be do what we want to do.
How dare!
Majid, cette semaine, la Hongrie a été condamnée par la justice européenne car elle a violé le droit d'asile. Tu nous en dis plus ?
Alors, pour commencer, le droit d'asile, c'est quoi ?
Il s'agit du droit pour une personne victime de persécution dans son pays d'être protégée par un autre pays.
La Hongrie a enfreint ce droit. La Cour de justice de l'Union européenne estime, je cite, qu'elle a manqué à son obligation de garantir un accès à une protection internationale.
Concrètement, comment elle a fait ça ?
Elle a limité l'accès aux procédures de protection internationale. De nombreux migrants ont été parqués dans des camps au sein de zones de transit. En mai, la Cour avait demandé la libération des demandeurs d'asile dans ces camps. Elle estimait qu'ils étaient retenus sans motif valable. Ce problème ne date pourtant pas d'hier. Ces zones de transit ont été établies en 2015, après que la Hongrie ait bâti des clôtures à barbelés le long de sa frontière avec la Serbie et la Croatie. À cette époque, la crise migratoire battait son plein. Cette condamnation est donc une dernière mise en garde avant d'importantes amendes. Légalement, elle oblige la Hongrie à changer radicalement de politique sur ces questions. Une énième controverse depuis 5 ans sur la politique anti-migration de Viktor Orban.
D'ailleurs, le Premier ministre hongrois n'en est pas à sa première polémique.
Exactement, Caps. Après les migrants, c'est la communauté gay qui en prend pour son grade. Ce mardi, le Parlement hongrois a adopté une loi restreignant les droits des minorités sexuelles. Par exemple, il est interdit d'alimenter ce que le gouvernement appelle la propagande LGBT. Cette interdiction a notamment été appliquée dans une crèche et une école maternelle à Nagikata. Le Fidesz, parti du Premier ministre qui administre la ville, s'est défendu en disant, je cite, « c'est dans l'intérêt du développement mental et intellectuel des enfants ». Un panneau y a même été apposé avec comme message « stop à la promotion de l'anormalité comme norme ». Cette même loi interdit l'adoption pour un couple du même sexe, considérant que la mère est une femme et que le père est un homme. Bref, retour au Moyen-Âge.
Bon, la Hongrie régresse sur ces questions, mais il y a du progrès en Bolivie.
Le pays a reconnu pour la première fois de son histoire l'union civile entre deux personnes du même sexe. C'est une longue bataille juridique de plus de 2 ans d'un couple gay qui aura abouti à cette avancée historique, comme quoi l'amour est plus fort que tout.
En Inde, les ouvriers sont en colère.
Près de Bangalore, des ouvriers de Wistron, un sous-traitant d'Apple, ont pris d'assaut leur usine. Il s'agit d'un des plus gros sites de production de la marque à pommes. Leur revendication est simple, ils n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Le coût des dégâts est estimé à 48,8 millions d'euros.
Merci Majid, c'est parti pour la rubrique France.
La République, c'est moi !
Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
Et ils sont là, ils sont dans les campagnes.
Parce que c'est notre projet !
Clément, dans un peu moins de 18 mois, c'est l'élection présidentielle de 2022. Les partis politiques cherchent le candidat qui représentera leur couleur et on reparle en mal comme en bien du système des primaires. Tu nous expliques ?
Alors Capucine, petit tour incomplet des forces en présence en commençant dans le coin droit du ring avec le parti Les Républicains. 2017, vous vous souvenez sans doute de cela.
Quand on veut être candidat à la fonction publique, il faut présenter un extrait de son casier judiciaire. Oui, c'est une exigence de transparence, oui, c'est une exigence d'exemplarité, ça ne vise personne.
Je tiens mon casier judiciaire à la disposition de Bruno.
Nicolas Sarkozy, vous sentez-vous, vous-même, visé par Bruno Le Maire ou par ce que disait il y a peu François Fillon qui disait, sans doute parlant de vous, qui imagine De Gaulle mis en examen ?
Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent.
Pas question pour les Républicains de revivre ça. Mercredi, le bureau politique s'est réuni pour se mettre d'accord sur un vague système de départage des candidats après les élections régionales si aucun d'eux n'arrivait d'ici là à devenir un candidat naturel.
Pourquoi attendre après les élections régionales ?
Car parmi les candidats plus ou moins déclarés chez les Républicains, trois sont présidents de région. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Le résultat que chacun fera sera déterminant pour son maintien ou non dans la course à la présidentielle.
Et dans le coin gauche du ring, c'est comment ?
Eh bien, ça ne va pas mieux. C'est plutôt éparpillé, ventilé façon Pulse, comme dirait l'autre. Le think tank Jean Jaurès propose pour départager encore une fois les différents candidats une primaire en escargot. L'élection serait étalée sur 2 mois avec 5 scrutins dans de grandes zones géographiques. Au fur et à mesure, il faudrait atteindre un seuil minimum de voix pour les candidats et ainsi accéder au tour suivant.
Supprimer les aides familiales pour lutter contre la délinquance, c'est la mesure prise par une ville en France.
Le conseil municipal de Valence a voté ce lundi la fin de certaines aides. Sont concernées les familles dont un membre a été condamné pour trouble à l'ordre public, a fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou si le foyer a refusé un accompagnement parental.
Pourquoi mettre en place un tel dispositif à Valence ?
Eh bien pour répondre à la nuit de violence qui a secoué la ville lors de la Toussaint le 1er novembre dernier. Le maire Les Républicains, Nicolas D'Aragon, n'entend pas en rester là. Il compte également expulser certaines familles des logements sociaux qu'elles occupent en cas de condamnation.
On reparle également de Carlos Ghosn qui est de nouveau dans le viseur du fisc français.
L'ex-patron de Renault, réfugié au Liban après son évasion du Japon en décembre 2019, est de nouveau sous le feu des projecteurs, ceux des services de Bercy. Le ministère enquête sur sa demande déposée en 2012 d'expatriation fiscale vers les Pays-Bas. Elle est présumée fictive. À titre conservatoire, une partie du patrimoine de Carlos Ghosn a été saisie, tandis que des actions du groupe Renault, représentant 19 millions d'euros, ont été gelées. Carlos Ghosn est déjà sous le coup d'autres procédures de justice, au Japon pour malversation financière et en France pour abus de biens sociaux.
Merci Clément, on passe tout de suite à la rubrique économie.
On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Cette semaine, Julien, tu nous parles du Brexit. Les négociations sont toujours en cours à Bruxelles pour trouver un accord sur la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen. Bon, tu n'as pas prévu de nous faire un récap sur ce feuilleton britannique, mais un zoom sur l'impact économique pour la France.
Alors, la France commerce avec le Royaume-Uni, ça, c'est sûr. Les Anglais sont les 6e clients de notre pays, avec 33,6 milliards d'euros d'exportation en 2019. Ça peut paraître beaucoup, mais sur France Info, Bruno Le Maire affirmait que l'impact du Brexit serait très faible.
Ceux qui vont être durement touchés, c'est les Britanniques, c'est pas la France. Nous, notre évaluation, c'est que l'impact du Brexit sur l'économie française sera 0,1 point de notre richesse nationale en 2021.
Mais il y a quand même des secteurs qui sont impactés ?
Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais ils seront forcément très touchés par le Brexit. On pense bien sûr à la pêche. C'est d'ailleurs le cœur des négociations à Bruxelles, et pour cause, 60% des poissons pêchés en Europe proviennent des eaux britanniques. Sauf que si les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ou encore le Guilvinec en Bretagne ne peuvent plus pêcher dans les eaux britanniques, ils vont se retrouver avec les pêcheurs européens le long des côtes françaises, ce qui signifie forcément moins de revenus pour les pêcheurs. Autre impact pour les entreprises qui commercent au Royaume-Uni, les douanes. Une nouveauté pour de nombreuses entreprises, comme l'explique Patrick Leverrier, président du Club des entreprises exportatrices de la Vienne.
Aujourd'hui, les gens qui envoient de la marchandise sur l'Angleterre n'ont pas forcément fait de déclaration en douane un jour. Du jour au lendemain, ils vont être obligés d'en faire. Les camions qui vont arriver en Angleterre, est-ce que les chauffeurs vont être prêts à connaître les nouveaux systèmes? Ça risque de faire des encombrements terribles. L'incertitude règne.
Il craint les kilomètres de bouchons aux frontières, ce qui pourrait coûter gros aux entreprises. Selon lui, un camion à l'arrêt pendant une minute coûte 1 euro à l'entreprise. Au total, c'est plus de 150 000 entreprises qui exportent vers la Grande-Bretagne et qui devront donc s'adapter. Les secteurs les plus touchés sont la construction aéronautique et la construction automobile, mais aussi le secteur agroalimentaire. On pense par exemple aux boissons et à l'alcool.
Et sinon, l'entreprise Huawei fait encore parler d'elle.
L'entreprise chinoise installe sa première usine de production hors Chine. Et devinez où ?
En Alsace-Yodu.
Merci Agathe. La nouvelle usine située à Brumath va produire des équipements pour la technologie 5G. D'un point de vue éco, ça représente 300 embauches, mais c'est surtout un investissement stratégique pour Huawei, car c'est la guerre pour savoir qui va dominer la 5G. L'entreprise chinoise se rapproche de ses concurrents européens Ericsson et Nokia. L'administration Trump a, dans la foulée, alerté contre les risques d'espionnage.
Et on termine avec le budget 2021 enfin validé.
Après avoir revu plusieurs fois le budget, il est finalement validé par l'Assemblée nationale. Le plan d'urgence à l'économie comprend plus de 20 milliards d'euros d'aide, mais le gros du budget reste les 22 milliards d'euros de crédits prévus pour la relance. Parmi tous ces milliards d'euros dépensés, l'État a garanti que les impôts n'augmenteraient pas en 2021, une promesse du candidat Macron qu'il souhaite tenir, même en temps de crise.
Thanks very much. On passe tout de suite à la rubrique sport et culture.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non.
C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein.
La chatte, qui va, la chatte.
Le 17 décembre, la Russie s'est vue condamnée à l'exclusion pendant 2 ans de toute compétition sportive internationale. Un nouveau camouflet pour le pays de Vladimir Poutine que tu nous expliques, Héloïse.
La crise du dopage russe ne date pas d'hier. C'est en 2016, après une vaste enquête de la chaîne allemande ARD, que paraît le rapport McLaren. Porteur du nom de son juriste, le rapport confirme le trucage des tests antidopage lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi et la manipulation d'échantillons au laboratoire de Moscou entre 2011 et 2015. Réaction en chaîne, l'agence antidopage russe RUSADA est déclarée non conforme par l'agence mondiale antidopage, l'AMA. 2 ans plus tard, en 2018, l'AMA lève la suspension de la RUSADA, mais lui demande les données conservées au laboratoire de Moscou afin de pouvoir identifier les précédentes manipulations et prononcer des sanctions plus importantes. C'est ce qui est arrivé il y a 1 an. Le 9 décembre 2019, l'AMA exclut la Russie des Jeux Olympiques d'été qui devaient se dérouler à Tokyo cette année, mais aussi de ceux d'hiver à Pékin en 2022, ainsi que de toutes les grandes compétitions sportives mondiales, comme la prochaine Coupe du Monde de football. La RUSADA conteste, l'AMA saisit le tribunal arbitral du sport, qui, en passant par là, siège à Lausanne
En Suisse. Donc c'est au tribunal arbitral du sport que revient la lourde responsabilité de décider de l'exclusion de la Russie de toute compétition internationale ?
Exactement. Il a tranché et la Russie a donc écopé de 2 ans seulement. Les sportifs russes pourront quand même participer à titre individuel et sous bannière neutre sans drapeau national. Vladimir Poutine, lui, ne pourra assister à aucune compétition pendant ces 2 années. Au-delà d'une condamnation sportive se cache un vrai camouflet politique pour le chef du Kremlin qui sur le sport pour redorer l'image de son pays. Ces nouvelles sanctions prendront fin le 16 décembre 2022.
Le dopage russe n'a plus de secret pour nos auditeurs désormais. Et côté culture, il s'est passé quelque chose cette semaine malgré la prolongation de la fermeture des lieux culturels.
Cette semaine a été marquée par la disparition de David Cornwell, plus connu sous le nom de John le Carré, maître du roman d'espionnage. L'écrivain britannique était un ex-espion pour le MI6, le service des renseignements extérieurs du Royaume-Uni. Il est décédé à l'âge de 89 ans et a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde, dont L'espion qui venait du froid, paru en 1964. Et pour finir, le couscous classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, cette demande était portée par l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Le comité du patrimoine de l'UNESCO salue ce rapprochement des peuples et des cultures. Il soutient sa décision avec cette phrase qui en dit long sur les souvenirs, les traditions et les savoir-faire de chacun. Le meilleur couscous, c'est celui de ma mère.
Merci Héloïse, on passe tout de suite à la chronique recommandation.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
Alors cette semaine, Joséphine, on va s'intéresser aux différents prix décernés aux journalistes et aux médias. On commence par le prix Albert Londres, j'imagine.
Oui, forcément. Le Goncourt du journalisme, comme on le surnomme tellement il est prestigieux, récompense les meilleurs grands reporters francophones sous trois catégories : la presse écrite, l'audiovisuel et le livre. Cette année, côté presse écrite, il a été décerné à Alan Caval, journaliste au Monde, pour son reportage dans le nord-est de la Syrie, La mort lente des prisonniers djihadistes, réalisé dans un centre de détention kurde. Évidemment, il y a d'autres prix, comme celui de la presse diplomatique, qui récompense chaque année un journaliste pour son travail sur un sujet d'actualité internationale. En 2019, il avait été décerné à Angélique Forget, correspondante de France Télévisions en Inde et en Asie du Sud, pour son reportage intitulé Ouïghours à la force des camps. 2020 n'a en revanche pas encore de lauréat. Sinon, il y a aussi le prix Bayeux Calvados qui concerne les quatre catégories de médias. Il dresse un palmarès des correspondants de guerre et journalistes qui exercent leur métier dans de rudes conditions pour garantir une information libre aux citoyens. Dans la catégorie photo, le premier prix Nikon revient à Lorenzo Tugnoli pour son cliché en noir et blanc La guerre plus longue, pris en Afghanistan en décembre 2019. La scène montre le quotidien d'un groupe de combattants talibans qui déjeunent.
Côté radio, il y a aussi le prix du journalisme des RFP.
Aussi appelé prix MFP, c'est la distinction la plus prestigieuse en radio. Le prix du journalisme radio des médias francophones publics s'intéresse aux faits de société. Le 6 décembre, c'est le reportage Beyrouth, l'espoir en faillite des journalistes de RFI Nicolas Falaise et Nicolas Benita qui a été récompensé. C'est d'ailleurs le seul prix journalistique décerné par un jury d'auditeurs.
Et il y a une production journalistique qui t'a particulièrement plu ?
La liste est longue, mais je vous recommande vivement le reportage The Thin Yellow Line Standing Between Hong Kong Police and Protesters de Dayu Zhang, journaliste au South China Morning Post. C'est un petit bijou télévisuel de 8 minutes récompensé par le Grand Prix Média Lorenzo Natali 2020 et qui présente ces volontaires vêtus de jaune qui protègent les manifestants à Hong Kong. Il y a encore de nombreux autres prix ainsi que des travaux non récompensés bien évidemment qui valent le détour. À vous de chiner donc.
Merci Joséphine. Voilà, c'est déjà fini. On espère qu'on vous a bien briefé. Nous sommes présents et actifs sur Instagram, Twitter et Facebook. Nos DM sont ouverts pour toutes questions, remarques ou envies. On vous souhaite de bonnes vacances de Noël. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Prenez quand même un peu de temps pour vous reposer, parce que dès janvier, les révisions vont s'intensifier. Continuez de suivre l'actualité, portez vos masques, pas plus de 6 à table, et surtout, partagez notre épisode autour de vous. Merci à tous, à la semaine prochaine. Over!